Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Journal signé Patience Ngalula Mbombo.
Près de 1500 déplacés des Kwamouth vivant à Bandundu-Ville, dont des femmes et des enfants, font face à des conditions de vie très précaires. Les responsables du site des Malebo évoquent parmi les difficultés les manques d'installations hygiéniques dans leur camp. Le gouvernement congolais valide la relance du processus d'obtention du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. En tout cas, une commission ad hoc est mise en place hier à l'issue du Conseil des ministres pour se pencher sur la question. Notre invité est le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique ISP Goma, le professeur Dr Butoa Balingene est l'initiateur du projet de médiathèque et centre d'innovation des Goma qui vient de bénéficier de première souscription pour une dotation de premier livre. Bonsoir à toutes et à tous. Dans la province du Kwilu, les déplacés des Kwamouth vivant au site des Malebo dans la ville de Bandundu, à la suite des violences nées du conflit intercommunautaire Tekeyaka, déplorent les conditions inhumaines dans lesquelles ils vivent. Ils affirment avoir des difficultés notamment pour se soulager faute d'installations hygiéniques déjà bouchées. Leur nombre est estimé à près de 1500, dont des femmes et des enfants, selon François Tabuku, le responsable du site. Il en appelle à l'intervention du gouvernement. On l'écoute au micro d'Irène Mbomaluzolo.
Il n'y a pas de toilettes. Vraiment, les gens souffrent. Vraiment, surtout ça, chez nous, il n'y a pas de toilettes. Les voisins, ils commencent maintenant à refuser. Les derrière, là, derrière des toilettes, là, qui étaient déjà bouchées. Vraiment, c'est impossible d'arriver là-bas. Alors, on a demandé aux gens qui passaient, les gens qui viennent. Non, nous allons passer. Mais jusque là, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de douches. Vous allez voir, on a commencé à faire ne fût-ce qu'un petit rien pour que les gens puissent prendre bain. Mais il n'y a pas de toilettes. D'autres, surtout les mamans, là, ce n'est que la nuit, hein, parce que la journée, il n'y a pas moyen de prendre bien la journée comme ça. Vraiment, c'est difficile. Je ne sais pas ce que vous diffusez, si les autorités écoutent ou bien ils sabotent ou ils prennent ça en considération, mais les conditions, vraiment, c'est difficile. Ça nous amène de la maladie. Après la maladie, s'il n'y a pas de soins, ça doit toujours amener quelqu'un à la mort. Il y a des femmes enceintes, il y a des femmes qui allaitent les enfants et toujours avec des conditions amères. Vraiment, à tout le monde qui m'écoute, le gouvernement, nous sommes là, au sud de Malebo. Vraiment, nous plaidons toujours au gouvernement de venir nous assister.
Rappelons que ça fait déjà plus de 2 ans que ces déplacés ont trouvé refuge à Bandundu-Ville, fuyant les atrocités de la milice Mobondo à Kwamouth au Maïndombe. Les uns sont logés dans des familles d'accueil et d'autres au site des Malebo. Pendant ce temps, en Ituri, environ 900 maisons sont envahies par les eaux du lac Albert dans les différents camps de pêche dans le territoire de Djougou. C'est la conséquence de l'inondation du lac Albert qui a laissé plusieurs familles sans abri. D'après des sources locales, des centaines de victimes affluent depuis mercredi au site de déplacés des Nyamusasi à Tchomia. Elles plaident pour une aide d'urgence en faveur des sinistrés. Ézéchiel Mouzalia.
C'est depuis plus d'un mois que s'observe une augmentation du volume des eaux du lac Albert qui déborde dans les camps des pêches. Poussées par les vents, ces eaux envahissent les maisons des riverains. Les dégâts sont enregistrés surtout dans les localités lacustres dans les territoires des Djougou, notamment Djo et Igbi, dans les groupements Losandrema, dans la chefferie de Baïma Nord. Environ 900 maisons sont détruites et plusieurs biens emportés par les eaux. La plupart des victimes ont trouvé refuge à Tchomia, au site des déplacés de Nyamusasi. Elles passent la nuit sous des tentes de fortune. D'autres sont installés dans des familles d'accueil. Biwaga Espérance, vice-présidente du site des déplacés de Nyamusasi, lance une alerte pour une aide d'urgence.
Les déplacés souffrent beaucoup ici. Certains ont des abris déjà déchiquetés, d'autres n'ont rien à manger. Je vous dis, la vie est devenue difficile dans ces sites. Nous avons des hangars ici qui servent d'abri d'accueil pour les nouveaux déplacés hommes et femmes. Ils sont plus de 280 personnes qui sont ici depuis environ une semaine. Leurs maisons sont envahies par les eaux. Nous demandons aux autorités d'intervenir en urgence avec la nourriture ou soit des bâches.
Des centaines de maisons et matériels de pêche sont déjà détruits par les eaux du lac Albert depuis environ 2 ans dans le territoire des Djougou, Mahagi et Irumu. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
À Goma, au Nord Kivu, la vie des plus de 4000 détenus de la prison de Munzenze est en danger et les dégâts humains risquent d'être importants si rien n'est fait par les autorités compétentes au niveau provincial et national. Cet établissement carcéral est en rupture des stocks des vivres et des médicaments depuis 4 mois maintenant. Nous faisons le point avec Gabriel Ouamenia.
Selon les sources anonymes et crédibles de la prison qui livre l'information, la prison de Goma est en rupture des stocks de vivres et de médicaments depuis 4 mois maintenant. Toutes les organisations caritatives qui intervenaient sur le plan alimentaire et sanitaire sont arrivées à la fin de leur projet et elles se sont immédiatement désengagées de la prison. Il s'agit notamment de l'ONG MSF Hollande qui intervenait sur le plan alimentaire et la prise en charge des détenus malades. Nos sources parlent d'une situation complexe et redoute improbable soulèvement des détenus dont la plupart vivent de la charité des autres réclusionnaires. Ces sources précisent que c'est surtout avec l'opération Safi Chamoudio à Goma que le nombre de détenus augmente de jour en jour au sein de la prison Munzenze. Cette situation de précarité pourrait exacerber la colère des pensionnaires, nous ont confirmé quelques responsables de la prison sous couvert d'anonymat. C'est pourquoi ils plaident pour une assistance urgente en faveur de ces détenus. Notons que la prison de Munzenze, qui compte actuellement 4554 détenus, reste confrontée actuellement à l'explosion de plusieurs maladies dont la diarrhée, précise nos sources. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
Et puis, l'école des pensées en droit pénal, Skiré, réfléchit sur les réformes à apporter à la justice militaire. Elle a organisé ce samedi à l'université de Kinshasa une conférence débat axée sur la justice militaire congolaise. Quelles réformes pour l'amélioration de l'administration de la justice pénale? En marge des enseignements des procédures pénales militaires qu'assurent les fondateurs de cette école, les professeurs Espoir Massamanki à l'université de Kinshasa, cette conférence s'est veut un cadre d'échange des points de vue et de la perception des acteurs judiciaires du domaine et des scientifiques qui travaillent sur les questions se rapportant à la justice militaire en RDC. Reportage de Jeff Ngoy.
La justice militaire est une justice normale et bien disciplinée, contrairement à ce que son appréhension donne au niveau des populations. C'est ce que pense le professeur Espoir Massamanki qui justifie l'organisation de cette conférence.
Les Congolais ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans cette justice. Ils ont une très mauvaise perception de la justice militaire. Voilà pourquoi nous avions pensé qu'il fallait organiser toute une grande conférence sur la justice militaire pour communiquer sur des questions de justice militaire afin de participer à la vulgarisation de cette justice qui, pour nous, est une justice normale.
Quelle perception se fait justement l'opinion publique kinoise de la justice militaire? Une pré-enquête menée auprès des publics cibles par Bertin Chama, doctorant en anthropologie à l'UNIKIN, donne ses résultats.
Il y a la lenteur dans le traitement des dossiers devant la justice militaire. Il y a l'agressivité dans les arrestations et l'instruction des dossiers devant la justice militaire. J'ai une interpellation. Longola Sapata, Fanda Nassé, il y a des tortures.
Les forces et les faiblesses de la justice militaire, notamment son bicéphalisme, ainsi que les juges des militaires et policiers et aussi des civils, appellent à des réformes selon certains conférenciers et des étudiants en droit.
Je le disais dans le titre, la question de l'émission des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce a été évoquée au cours de la 20e réunion du Conseil de ministres tenue hier vendredi. Dans sa note d'information, le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo, a fait savoir qu'au-delà du manque à gagner pour le trésor public, la non-disponibilité de permis de conduire constitue un facteur important d'insécurité routière. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Dans le compte-rendu, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, indique, je le cite, « Devant ces impératifs, une commission composée des membres du ministère des Transports ainsi que des Finances, de l'ONIP, de la DGRAD et de la société prestataire a été mise en place pour élaborer et analyser le processus devant aboutir à la production et la délivrance des permis de conduire. » Fin de citation. Toujours selon le compte-rendu, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a rassuré assuré que ce projet vise à moderniser et sécuriser le processus d'obtention du permis de conduire en introduisant les caractéristiques biométriques qui permettront de lutter plus efficacement contre la fraude et le faux document. Et Patrick Mouyaya de poursuivre que la mise en place de ce nouveau système contribuera à renforcer la sécurité routière et améliorer la gestion des données des conducteurs. Après identification des sites appropriés pour cette opération, il reste à finaliser le partenariat avec le prestataire afin de permettre à la Commission nationale de délivrance des permis de conduire d'entamer l'exécution de cette opération.
C'est déjà connu, les calendriers réaménagés de la CENI fixent au 15 décembre prochain le législatif provincial et national annulé dans le territoire de Massimanimba et de Yakoma. Dans ces derniers territoires du nord Ubangi, plusieurs voix s'étaient levées pour décrier la léthargie autour de ces scrutins. Mais depuis le lancement des opérations par la porte-parole de la centrale électorale, la population s'est dit maintenant convaincue qu'il y aura réorganisation de ces élections, car les processus en marche se déroule normalement, a reconnu le président de la société civile territoire de Yakoma. Jean de Dieu Ouloulou l'a dit au micro de Paul Richard Malengela.
Avec l'arrivée de son Excellence Madame le rapporteur de la CENI depuis le 24 octobre 2024, la population de Yakoma est convaincue qu'il y aura la réorganisation des élections des députés nationaux et provinciaux. Parce que quand Madame le rapporteur a lancé les opérations pendant la grande réunion des cadres de concertation, sur le terrain, il y a les cartographes qui sont allés récolter les données. Il y a aussi le recrutement des sensibilisateurs au niveau du village. Il y a l'affichage de listes électorales dans chaque bureau de vote et l'antenne. Et les duplicatas de cartes illisibles sont en train d'être délivrés à l'antenne et au bureau du secteur. Donc, voyant toutes ces opérations, cela nous fait croire que le calendrier réaménagé par la CENI sera respecté et nous attendons la suite.
Notons que comme aux élections passées, environ 200 candidats députés provinciaux et 84 candidats députés nationaux déboutés en décembre dernier pour raison notamment des fraudes et désordres devront à nouveau s'affronter lors de ces élections. Lancement hier vendredi à Matadi au Congo central du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Piforest en sigle. C'est un programme du gouvernement à travers son ministère de l'Environnement et Développement durable financé par la Banque mondiale. Exécuté par l'unité des coordinations de la Piforest, ce projet a une durée de 7 ans. D'après Clément Vangou, coordonnateur national du Piforest, son objectif est d'améliorer la gestion des paysages forestiers et renforcer les moyens de subsistance des communautés dans les zones sélectionnées par ces projets. Les points avec Nana Pluriche Mambou.
Ce programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Piforest en sigle va permettre à la province du Congo central de proposer une solution adéquate aux défis environnementaux auxquels il est confronté, notamment les changements climatiques. Ainsi l'a souligné Clément Vangou, coordonnateur du Piforest.
Le Piforest vise à lutter contre la déforestation et contre les changements climatiques. De même, avec l'émergence de la finance climatique et l'ambition des autorités du pays de faire de la RDC un acteur majeur de l'économie verte,
l'amélioration de la planification de l'utilisation des terres et de la gouvernance pour la gestion des ressources naturelles dans les zones ciblées telles que Kinshasa, le Congo central, Kwilu, Kasai, Kasai central et Lomami, ainsi que le développement des chaînes de valeur durables pour l'énergie et la cuisson efficace. Financé à la hauteur de 300 millions de dollars, Piforest va bénéficier notamment aux communautés rurales avec un potentiel d'activité économique et aux ménages. C'est principalement dans les zones urbaines et périurbaines lesquelles auront accès à une cuisine propre grâce à l'adoption des solutions de cuisson propres. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, les éleveurs de certaines associations paysannes d'élevage participent à une session de formation sur les pratiques améliorées et techniques d'élevage des animaux domestiques, dont les poules et les porcs. Durant 5 jours, les participants se familiarisent avec des notions de construction des eaux techniques, l'alimentation et la nutrition des animaux domestiques et aussi la détection et la lutte contre les différentes maladies de ces animaux. On écoute à ce sujet l'ingénieur Mupenda Ndarabu Rams, facilitateur de ces assises, au micro de Florence Kizalunga.
Après les constats, d'après les multiples descentes sur terrain, on a constaté qu'il y a présence de beaucoup de maladies, des faiblesses de production animale. Par rapport à ça, avec l'appui des padrires comme PETEF, de ces faits, après les résultats de la descente sur terrain, on a invité les délégués des membres de certaines organisations paysannes d'éleveurs dans les trois sites cibles qui sont renforcés en capacité pendant 5 jours. Nous voulons à ce que les participants puissent retourner avec un bagage de pratiques améliorées d'élevage afin qu'ils aillent renforcer à leur tour en capacité les éleveurs qui sont restés afin de pouvoir mieux élever et rehausser le rendement animal et au marché on verra les prix de la viande baisser car ici chez nous à Kindu est devenue la ville parmi les villes où les prix de la viande est tellement en hausse.
Actualité internationale.
Au Niger, un convoi de camions transportant des marchandises en provenance de Lomé via le Burkina Faso a été attaqué vendredi 1er novembre par des groupes djihadistes. Ça s'est passé près de Pétel, collé à une trentaine de kilomètres de Téra dans les Tillabéries. Plusieurs camions ont été incendiés. Une fusillade a éclaté avec les militaires qui escortaient les convois. Aucun bilan officiel pour le moment.
L'invité.
Nous recevons comme invité le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique ISP Goma, le professeur Dr Bouto Abalingene et l'initiateur du projet de médiathèque et centre d'innovation de Goma. En collaboration avec les gouverneurs des provinces du Nord Kivu, ce projet a bénéficié lors d'une séance jeudi 31 octobre à Goma de première souscription pour une dotation des premiers livres, ce qui est une première étape pour la matérialisation de la bibliothèque publique de Goma. Notre invité nous parle de ses projets. Professeur Dr Bouto Abalingene, dans cet entretien accordé à Bernardin Nyangui.
Professeur Bouto Abalingene, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez été avec le gouvernement provincial dans une activité d'appel de fonds pour la matérialisation du projet médiathèque et centre d'innovation. Comment ça s'est passé?
Effectivement, on était là pour lancer le projet de la médiathèque et centre d'innovation de Goma. Ça s'est passé plus ou moins bien parce que les gens sont arrivés et certains ont souscrit pour nous acheter les livres et différents outils, notamment des ordinateurs, des tableaux numériques et d'autres éléments importants pour ce projet-là.
Oui, mais quel est votre besoin par rapport à ça pour que ce projet-là se matérialise?
En fait, nous avons besoin principalement des livres. Parce que nous comptons ouvrir une médiathèque de 20 000 livres, modernes, actualisés. Et nous avons besoin d'au moins 10 tableaux numériques pour les différents échanges en ligne et des cours également en ligne. De plus ou moins 50 ordinateurs pour permettre la recherche en ligne, même les cours en ligne. Nous avons aussi besoin d'autres outils comme la connexion Internet, comme le contrôle numérique pour que les gens ne volent pas les livres. Nous avons besoin aussi qu'on nous appuie pour supporter le coût du personnel. Et nous avons besoin de mobilier également.
D'où d'abord est venue cette idée-là d'initier ce projet, la médiathèque et centre d'innovation?
Aussitôt nommé au comité de gestion de l'ISP de Goma, je me suis dit que l'ISP a une grande responsabilité, celle d'encadrer les jeunes et organiser un enseignement de qualité. Parce que dans mes convictions, je me dis qu'un Congolais mal formé, il ne fera rien dans son pays. Alors, j'ai mené d'abord une petite enquête où j'ai trouvé que les jeunes ne lisent plus, même les enseignants ne lisent plus, alors que la grande richesse, la recherche, se trouve dans les livres. Alors je me suis dit, je dois organiser une grande bibliothèque dans la province pour permettre aux jeunes de sortir de leur désinformation, parce qu'il y en a qui ne sont pas informés et qui commettent des bévues, parce qu'ils ne lisent pas, ils ne voyagent pas. Et si ça marche au Nord Kivu, je vais m'investir pour que aussi je puisse influencer les autres amis, même dans les autres provinces. D'ailleurs, quelqu'un était en train de me dire, bon, tunaenda kumasomo en kiswahili. Kusomo, c'est-à-dire lire. Et si vous ne lisez pas, alors qu'est-ce que vous irez faire à l'école? Et c'est pourquoi je suis engagé dans cette démarche. Et je me dis, moi, je n'ai pas de moyens. Mais si vous allez contacter d'autres amis avec qui nous sommes en train de cheminer, notamment Livre pour Grand Lac, Maison Artistique SIM, la Chambre de Commerce Agriculture, Élevage, Arts et Métiers et Industrie, nous sommes aussi avec la division provinciale de l'enseignement primaire et secondaire et nouvelle citoyenneté. Bien sûr, le gouverneur aussi, qui nous accompagne parce qu'il a vraiment compris. Vous avez vu que c'est lui qui a même signé l'invitation. Et nous avons déjà organisé 3 activités et tout le temps, il est toujours avec nous.
Alors ici, vous parlez de médiathèque et ailleurs, on parle des bibliothèques.
Oui.
Quelle différence ?
Médiathèque, c'est au-delà de la bibliothèque. Parce que la bibliothèque, c'est seulement les livres. Mais nous, nous voulons aller au-delà. À part les livres, nous voulons installer des outils numériques qui vont accompagner les livres là, afin que la recherche puisse se mener à tous les niveaux et correctement, une recherche de qualité. Alors, si nous nous limitons seulement aux livres en dur, nous n'aurons pas vraiment créé une médiathèque. Pour la médiathèque, on augmente d'autres moyens pour atteindre la science. Et parmi ces moyens-là, il y a l'ouverture sur Internet, il y a les échanges avec d'autres, il y a les enseignements en ligne.
Alors, vous voulez que cela devienne une structure publique, c'est ça?
Justement. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous ne l'avons pas installé dans l'ISP. Nous avons choisi un milieu ouvert, accessible. Nous allons l'installer à l'Instigo. Et nous avons déjà les documents où la division de l'enseignement, l'école, nous autorise de fonctionner là-bas.
Alors, après cette activité ici d'appel de fonds, est-ce qu'il y a une suite?
Nous avons eu quelques livres, ça ne suffit pas encore. D'autres ont promis, mais nous allons déjà bientôt là installer ces livres à l'Instigo.
Professeur Bouto Abalingene, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Vous l'avez deviné, c'est la fin de cette édition d'actualité sur Radio Kapi. Merci au duo Alain Goy et Alain Irung de l'avoir respectivement mise en onde et supervisée. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle de Radio Kapi, Patience Ngalula Mbombo vous dit merci de votre fidélité et bonsoir.